France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Boîte de nonnes, histoire de cellules en miniature. Ah, le passé a cela de formidable qu'il est une inépuisable source de surprises et elle est grande à la découverte de ces boîtes de nonnes. Une vie en boîte. Alors, pas de boule à facettes, de dance floor ou de DJ dans ces boîtes-là, même s'il y a un dress code à respecter. Les boîtes de nonnes sont des petites maquettes telles que réalisées au 18e, 19e siècle, surtout dans les couvents et à destination de l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons donc fabriquer des cellules monastiques et aussi celles qui se trouvent à l'intérieur. Mais comment réaliser une bonne religieuse ?
Aujourd'hui, nous allons faire des religieuses au chocolat. Ça pourrait être aussi des religieuses au café. Hein, il suffira juste d'inverser le chocolat avec le café.
Jolie l'église. Hein.
Oui, très jolie, mais moi je serais quoi là-dedans ? Quasimodo ou une de ces cloches ? On joue à quoi là ?
Je veux que vous restiez ici quelque temps.
Où ça ?
Dans le couvent. C'est l'endroit le plus sûr du monde.
Dans un quoi ?
Un couvent ?
Non mais ça va vraiment pas, vous savez pas aller me cloîtrer dans un putain de couvent avec des bonnes femmes qui baissent même pas !
Et le résultat sera le même. Allez, c'est parti.
Jolie l'église.
Oui, jolie. Allez, c'est parti. Isabelle Landonna, bonjour.
Bonjour.
Professeure d'histoire médiévale à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Elisabeth Lucet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire médiévisque occidental de Paris. Et puis, vous avez co-dirigé une histoire en boîte. Alors là, je mets une pause dans la présentation de cet ouvrage magnifique. Hein. Magnifique ouvrage. Ce sont les éditions de la Sorbonne qui le publient. Il faut m'expliquer, que sont ces boîtes qui se lancent ? Élise Lucet.
Alors, ces boîtes, ce sont donc des petites boîtes qui font entre une dizaine de centimètres et une trentaine de centimètres. On peut en décrire une qui vient donc de l'association Trésor de Ferveur qui en possède plus de 200. C'est une petite boîte de carmélite qui fait donc 18 x 15 centimètres. Donc
c'est
tout petit.
Oui, voilà. C'est tout petit.
Donc une boîte qui a une vitre frontale et quand on se penche pour regarder cette vitre, on voit une petite poupée habillée en religieuse, qui a un visage en mie de pain couverte de vernis avec des petites joues roses, des petites mains, ça ressemble un peu à de la porcelaine. Elle est donc habillée avec son voile noir, sa robe de bure, elle est en train de coudre et elle se trouve dans sa cellule. Alors une cellule simple avec quelques meubles, un lit, une chaise, un écritoire, des objets. Alors des objets qui signifient beaucoup de choses. Alors il y a la corbeille à ouvrage pour travailler, la plume pour écrire, le sablier pour égrener le temps, le crucifix, le balai pour nettoyer sa cellule. Et puis il y a aussi des textes, des choses à regarder, des images pieuses, Saint Ignace, et puis des messages qu'il faut se pencher pour regarder. Et il est inscrit « Ma fille, qu'es-tu venue faire ici ?»
C'est lourd de sens et c'est extrêmement riche comme document, parce que c'est un document historique. Isabelle Landonna, ce sont des maquettes en fait ?
Ce sont des maquettes, en effet, qui ont des dénominations variées et variables. Et l'une des difficultés de l'entreprise, c'est de les repérer, justement, à travers des dénominations qui peuvent être très différentes. Bois vitré, petites maquettes, petites cellules, béatis aussi. Bref, il y a toutes sortes de dénominations qui font que, dans les collections, par exemple, des musées d'art sacré, on les identifie pas toujours très bien, y compris aussi dans les archives départementales, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont aussi dans les archives. Donc voilà, donc c'est un objet plus ou moins bien nommé, mais cette difficulté de les nommer tient aussi au fait que c'est des objets qui ont été très peu étudiés.
Et donc,
quand on s'est lancé là-dedans, après les avoir repérés, quand on faisait un web documentaire, il y a maintenant 7 ou 8 ans, on cherchait en fait des images de cellules pour ce web documentaire et on n'en trouvait pas. Et donc c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu que la cellule de la religieuse était quelque chose de très peu représenté, aussi bien dans les miniatures médiévales que dans la gravure ou la peinture d'époque moderne, voire d'époque contemporaine. Et donc on est tombé sur ces objets. Et en réalité, l'histoire de ces objets, la première source pour la faire, ce sont ces objets eux-mêmes.
Oui, d'ailleurs, les auditeurs, les auditrices du cours de l'histoire en plein d'humour en nous disant que c'est vraiment un sujet de niche. C'est vraiment un sujet de niche. On peut le dire, ce web documentaire que vous évoquez, c'est le cloître et la prison, les espaces de l'enfermement. Il y a toute cette réflexion. Vous, Isabelle Landonna, vous êtes médiéviste. Et
Elisabeth aussi, du reste.
C'est vrai, vous êtes deux médiévistes.
Oui, égarés dans le 19e siècle.
C'est ce que j'allais vous demander à l'une et l'autre. Et Elisabeth Lucet, quand on est médiéviste, comment on en arrive à ces boîtes-là? Et c'est très intéressant de se dire que c'est la recherche d'images qui conduit à découvrir ces boîtes, parce que, en toute logique, une cellule de nonne, ça ne se voit pas. C'est l'endroit le plus secret du secret du secret.
Voilà, effectivement, c'est un endroit... aujourd'hui, on a l'habitude de visiter des monastères, mais il faut se remettre dans ce qu'était un monastère au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est un lieu où l'on ne pénètre pas, qui est ceint par une clôture. On peut aller au parloir, qui est l'espace où les familles peuvent aller visiter les religieuses. Mais il y a un endroit qui n'est visité par personne, à part par la religieuse et éventuellement la supérieure quand elle vient inspecter le lieu, c'est la cellule. La cellule dans laquelle on dort, on s'habille, on prie, et qui est un lieu d'oraison intime, un lieu de l'intimité, du rapport à Dieu, qui est le lieu le plus secret et qui symbolise, chez les Carmélites notamment, l'espace de spiritualité dans son aspect reclus et dans sa petitesse aussi. C'est l'espace secret de la chambre, de la cellule, dans lequel on peut entrer en communication avec Dieu.
Le dialogue des Carmélites.
C'est Dieu qui veut que vous entendiez ici ce que le cœur m'a manqué tant de fois pour vous dire. Avec votre permission, j'ai décidé d'entrer au Carmel.
Au Carmel ?
Je pense qu'un tel aveu vous surprend moins que vous ne voulez le laisser paraître.
Certaines circonstances malheureuses de votre naissance m'ont attaché à vous très tendrement. Et je ne voudrais en rien vous contraindre. Non, nous parlerons de ceci plus à loisir. Mais retenez dès maintenant que vous présumez sans aucun doute, non pas de votre courage, mais de vos forces. Et de votre santé.
Mon courage.
Mais une fille moins fière ne se tourmenterait pas pour un cri.
Mon courage. Je ne méprise pas le monde. Le monde est seulement pour moi comme un élément où je ne saurais vivre. Oui, mon père, c'est physiquement que je n'en puis supporter le bruit, l'agitation. Et lorsque je m'éveille la nuit, j'épie malgré moi, à travers l'épaisseur de nos rideaux, la rumeur de cette grande ville infatigable qui ne s'assoupit qu'au petit jour. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs et on verra ce dont je suis capable.
Le dialogue des Carmélites, la pièce de Georges Bernanos, c'est par la Comédie Française ici en 1970. La cellule de la religieuse, c'est vraiment un lieu très particulier. Hein. Elisabeth Lucet, vous nous le disiez, c'est le lieu secret. Et ces boîtes qui représentent ces cellules, bien sûr, la question se pose immédiatement, c'est à quelle destination la religieuse est dans sa cellule? Elle la connaît, elle va pas fabriquer comme une mise en abîme une boîte pour représenter sa propre cellule. Faut bien l'envoyer vers quelqu'un. Alors, c'est quoi la destination de ces petites boîtes?
Alors, il y a de nombreuses hypothèses. On a quelques indices. Alors, on sait que les religieuses s'échangeaient des boîtes entre elles. La boîte peut être un modèle pour montrer comment doit être une cellule. On a un exemple dans le livre d'une cellule d'Annonciade Céleste qui est envoyée par des religieuses de Gênes et qui les envoie aux religieuses de France pour montrer les dimensions, comment doit être normée une cellule. C'est aussi un objet que l'on fait passer la clôture et que l'on va offrir aux familles, à des bienfaiteurs. Alors ça, on le sait parce qu'on a des témoignages et on a parfois des rares dédicaces sur les objets où il est indiqué à mes petites nièces et mes petites nièces, votre vieille tante carmélite qui a beaucoup prié pour vous. Donc ce sont des objets qu'on offre à la famille et qui donnent à voir le mode de vie d'une religieuse qu'on ne voit plus que derrière les grilles, derrière les voiles, et qui donnent à voir voilà cette spiritualité et qui aussi permet à l'absente de s'incarner dans la famille, puisque l'objet ensuite est transporté et mis dans les familles.
On est dans le registre de l'hypothèse ici. Oui,
en fait, il y a plusieurs hypothèses. Elisabeth vient de rappeler les principales. Il y a aussi l'idée que ça puisse avoir, une fois que la boîte a passé la clôture, une valeur d'incitation à la conversion, par exemple, pour les petites filles. Faut pas oublier que au XIXe siècle, il y a des jeux de curés pour les petits garçons, des jeux de religieuses pour les petites filles. Dans l'ouvrage, on a mis une photo d'un tableau qui représente une petite fille avec sous son bras une poupée en habillant religieuse. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est très importante. portes. Elisabeth le disait, elle se les offre entre elles, par exemple, au moment de la prise de voile. Mais, bon, globalement, on n'a pas de source qui explique ni comment les fabriquer, ni à quoi elles servent. C'est-à-dire que on est obligé de faire des hypothèses et on a peut-être pas tout envisagé, je ne sais pas. Hein.
Voilà. Des hypothèses ou de retracer les histoires des objets quand on arrive à savoir qui a fait la boîte. Parce que,
ce qui est rare.
Voilà, l'une des caractéristiques de ces objets, c'est qu'on est dans l'exaltation de l'humilité. C'est pour ça que ces religieuses, elles fabriquent tout ça avec des matériaux de récupération. Donc on ne trouve pas de traces d'achat liées aux comptabilités, enfin dans les comptabilités, pour comprendre comment elles fabriquent l'objet. Elles récupéraient les chutes de tissus, des habits pour faire l'habit. La mie de pain, bah, c'est de la farine malléable. Voilà, donc tout est de la récupération. Donc parfois, on peut dater l'objet parce que c'est fait à partir d'un calendrier. Et on a du coup, on sait que c'est postérieur à ce calendrier. On a recensé deux kits de fabrication de ces petites boîtes où les religieuses ont indiqué les patrons, les dimensions. On a des petites boîtes qui renferment des petits visages, des petites mains de cire, de quoi faire la paille des chaises, les perles des sabliers, etc. Donc on voit que cet objet, il peut faire l'objet d'une production en série, mais hormis l'objet lui-même, qui est le témoin de ces pratiques, c'est vrai que et des témoignages de gens qui sont maintenant assez âgés et qui n'ont pas forcément connu cette pratique, mais qui ont un souvenir de ces objets, eh bien, on essaie de tirer les fils de cette histoire.
Oui, on voit bien qu'on n'est pas dans un objet en marge. Ce ne sont pas que quelques religieuses qui font ça dans leur
coin. C'est massif. Oui. C'est massif et nous on en a recensé un peu plus de 500 maintenant, mais on en découvre régulièrement. Hein.
C'est le moment de faire un appel à témoignage.
Voilà, on fait un appel à
témoignage. Si les gens qui nous écoutent, qu'ils nous écrivent.
Qu'ils nous écrivent, oui, voilà. On en a trouvé par exemple récemment à Carpentras. Bon. Et donc, on en a recensé 500, mais il y en a sûrement... Enfin, il y a des milliers de religieuses se sont livrées à cette activité depuis au moins le XVIIIe siècle. Ça, c'est une certitude. Et l'autre certitude, c'est que ces objets, dans les couvents, quand elles étaient dans les couvents, on les a pas toujours forcément conservés avec soin. Aussi parce que, plus récemment, l'usage, l'utilité, c'est perdu, en fait. Et donc, on sait... que dans certains établissements religieux qui ont été fermés récemment, il y avait de ces petites boîtes.
Voilà, les religieuses les redécouvrent au moment de la fermeture des Carmels. Et donc nous, on a été en contact avec plusieurs religieuses qui en ont collecté, qui ne connaissaient pas l'objet, qui faisaient, elles, avant de rentrer au Carmel, des maisons de poupées, du do-it-yourself, et qui se sont passionnées pour les objets. On a aussi des familles qui rapportent des petites boîtes parce qu'ils savent que c'est un objet auquel est attachée une mémoire familiale. Ils se rappellent que ça vient d'un Carmel, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont peur que l'objet s'abîme. Donc j'ai dit c'est avec des matériaux de récupération. Et donc on a mis quelques photos des dégâts que peuvent provoquer l'eau, l'humidité, les souris
insectes.
qui viennent manger les visages, la couverture. On voit les mites en fait qui sont en train de manger
le tissu de la robe.
Donc ce sont des objets fragiles, qui très empoussiérés, et donc qui sont difficiles aussi à restaurer. Et pour reprendre l'idée de du caractère massif de la production, hein, faut comprendre qu'au XIXe siècle, on a eu ce que Gérard Cholvy a appelé une explosion des congrégations, avec des milliers et des milliers de femmes qui rentrent en religion. À la fois donc des femmes qui s'engagent dans le monde, les hospitalières, les augustines, hein, c'est celle de la grande vadrouille, les ursulines dans l'enseignement, et puis on a aussi des femmes, des contemplatives qui elles se cloîtrent strictement. Alors ces boîtes, elles étaient d'abord fabriquées par les femmes strictement cloîtrées, donc les carmélites majoritairement, mais aussi des clarisses,
oui, y a pas que
des cisterciennes.
On parle beaucoup des carmélites,
mais il n'y a pas qu'elles. C'est majoritairement des carmélites, et puis on a aussi quand même quelques augustines, quelques ursulines.
Voilà, avec ici un appel que je relais. N'hésitez pas à écrire. Vous allez sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr. Il y a la possibilité d'écrire à l'émission. J'en profite d'ailleurs pour remercier les auditeurs, les auditrices de tous les messages. Ça fait toujours très, très, très plaisir d'avoir ces retours sur les émissions. Donc si, dans le grenier, bien souvent, on retrouve une boîte, parfois un peu défoncée, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on se dit, tiens, c'est une poupée. Non, en fait, c'est une religieuse. Voilà dans quelle histoire s'inscrivent ces boîtes, une vie en boîte. Où les retrouve-t-on maintenant? Parce que il y a une association dont vous avez cité le nom.
Trésor de ferveur.
Trésor de ferveur.
À Chalon-sur-Saône.
Parce que ces boîtes-là, moi j'ai bien saisi, elles sont fabriquées dans les monastères et elles sont censées être envoyées à l'extérieur. Certaines restent dans le monastère quand ce sont des cadeaux.
Pas toujours, voilà. Exactement, oui.
Alors, en deux temps. Premier temps, les boîtes qui ont été conservées dans les monastères. En tant qu'historienne, l'accès a-t-il été facile pour les avoir, les archives des monastères, et là où il y a encore des religieuses, est-ce que c'est facile de les consulter?
Alors, il faut savoir que chaque communauté est indépendante, et donc on a fait en fait un appel via le service des moniales, qui recense tous les monastères.
Une
association.
Qui a un site internet qui explique les religieuses qui
sont en France. J'ai lancé une annonce, et ensuite j'ai eu des réponses. Il y a eu des communautés qui m'ont répondu, d'autres qui n'ont pas souhaité répondre. Après c'était sur la volonté ou pas des communautés de communiquer sur la chose.
Alors ensuite, peut-être qu'on peut dire aussi que celles qui sont sorties des couvents se retrouvent soit dans des musées d'art sacré, soit dans cette association qu'on remercie au passage, Thierry Pinette qui s'en occupe, qui les collectionne depuis très 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 longtemps et qui nous a donné un large accès à sa collection qui est absolument fabuleuse, hein, il en a plus de 200. Et sachant que nous on en a repéré 500, ça vous donne quand même une idée. Et puis, il y en a qui apparaissent sur le marché des ventes aux enchères, en général dans des ventes de jouets anciens, voilà. Et donc, il y a des gens qui les acquièrent pour des sommes qui peuvent être un peu rondelettes quand même.
Ouais, c'est recherché, oui.
Oui, c'est assez recherché, oui.
Ça va dépend de la rareté de l'objet, voilà, de quelques centaines d'euros, mais pour les belles boîtes, on peut passer le millier d'euros.
Mmh. Est-ce qu'il y a une typologie de ces boîtes-là, alors selon les ordres religieux, selon la qualité de la boîte, vous arrivez à distinguer l'une et l'autre sur ces 500 boîtes que vous avez pu identifier?
On arrive à bien distinguer, enfin, pas toujours en réalité, mais disons, dans un certain nombre de cas, on arrive à bien identifier l'ordre dès lors que l'habit respecte un certain nombre de codes. Par exemple, les boîtes franciscaines, elles ont une cordelette avec trois nœuds qui correspondent aux trois vœux, pauvreté, chasteté. Bon. Donc, voilà, ça c'est un premier élément. Les carmélites, elles sont assez reconnaissables.
Après, il y a les éléments. Donc, l'habit est un indice. L'ameublement varie selon les ordres. Ouais. Puis ensuite, l'iconographie aussi, puisque ce sont des objets dans lesquels, sur les parois de la boîte, les religieuses vont coller des images pieuses qui sont récupérées dans des catalogues de vente, toutes ces images pieuses qui circulent au XIXe siècle. Et c'est le moment où elles signent un peu leur boîte. C'est-à-dire que l'objet est anonyme. Mais elles vont faire des choix dans les choix des sentences qui sont inscrites sur les parois de la boîte, qui correspondent aux sentences qui sont écrites sur les murs, hein, des carmels notamment. Elles font des choix aussi dans les saints qu'elles choisissent. Et donc, c'est là que se personnalise la boîte. Et puis, il y a un autre élément de personnalisation. C'est lorsque, à la fin du 19e siècle, on voit que les poupées sont substituées parfois par des photographies.
Alors là, ça devient très intéressant.
Voilà, donc alors plusieurs cas de figure. On peut découper un visage qu'on va coller sur le corps de tissu de la religieuse. Alors parfois, on choisit un visage générique qui est celui de Thérèse de Lisieux. Et puis parfois, on va choisir de se mettre en photo. Alors où la communauté choisit de représenter la religieuse en photo. Donc on a identifié, par exemple, des boîtes d'Ursulines. Et c'est Anne Le Poitevin qui a été cherchée dans les archives des Ursulines et qui a retrouvé le dossier de cette religieuse et qui a mis en regard le portrait qui a été fait d'elle le jour de son entrée, le jour où elle a prononcé ses vœux solennels et le fait qu'on ait mis son portrait dans la cellule.
On a quelque chose qui touche, alors pas à la relique, parce que la relique évoque la sainteté, mais enfin, à la relique familiale, dans l'idée que cette boîte se trouve à la maison avec l'évocation, la présence comme ça, sous forme d'une petite maquette, alors de la fille, de la sœur qui est partie dans un couvent. Il y a de cela aussi avec la photo, en plus c'est touchant. Est-ce qu'il peut y avoir des éléments d'ailleurs de cheveux, des choses comme ça?
Bah non, parce qu'elles sont entièrement voilées, si je puis dire.
Donc ça servira
sur
à rien.
La photographie, oui, on distingue le visage.
Ouais, voilà, le visage quand bien même découpé.
Voilà, le
mais
visage
on a aussi ce qu'on appelle un souvenir de profession, parce qu'il y a des objets connexes qui sont apparentés. Le souvenir de profession, la religieuse peut aussi tresser des portraits de cheveux avec la natte qui a été coupée à son entrée au monastère.
On en a mis une photographie dans le livre. Oui, voilà.
chose.
Et puis il y a cette grande variété aussi, c'est-à-dire que dans cette démarche de reproduire des boîtes qui pourraient être standardisées, et vous l'avez évoqué, il y a des sortes de kits pour les fabriquer, à côté de ça, il y a tout un espace laissé à l'innovation, à l'invention, pour montrer peut-être une particularité. D'ailleurs c'est très étonnant hein, par rapport à la taille, ça peut être tout petit.
Oui, ça peut être tout petit, et puis surtout... Vous évoquez l'innovation. Nous, ce qu'on a vu surtout, c'est qu'il y a des boîtes qui sont vraiment magnifiques et qui témoignent d'une très très grande dextérité de là ou des. D'ailleurs, on ne sait pas trop hein, des religieuses qui l'ont réalisé. Et puis il y en a d'autres qui sont très maladroites où les proportions sont pas du tout respectées. Donc on navigue entre l'œuvre d'art vraiment hein, le chef-d'œuvre au sens artisanal du terme, et puis parfois des choses qui sont beaucoup plus rustiques, on va dire.
Mais avec toujours une dextérité dans la miniaturisation. C'est-à-dire que je lui ai parlé des boîtes d'une dizaine de centimètres, mais on peut avoir des choses qui sont de l'ordre de 5 centimètres. On a parfois des petites cellules dans des coques de noix,
ou dans des
coquilles d'œufs, ce qui suppose aussi de ne pas briser l'œuf au moment où on fabrique. Ça peut être dans des coquillages. Thierry Pinette, donc de l'association Trésor de Ferveur, me disait qu'il avait une fois vu une cellule dans une coquille d'escargot, mais il n'a pas réussi à l'acquérir.
C'est dommage. C'est dommage. Avec ces boîtes-là, nous avons... toute la réflexion sur le mode de vie de ces religieuses. Toute cette idée de passer du temps à fabriquer ces boîtes, à quel moment les réalisent-elles ? Est-ce qu'il y a des indications ? Là encore, hein, on est beaucoup dans l'hypothèse.
On est totalement dans l'hypothèse, puisque, encore une fois, on n'a pas de documentation qui explicite le moment et le lieu où elles pourraient le fabriquer. Alors, on sait très bien que les religieuses, dans leur couvent, ont un temps pour le travail manuel, et du reste, on va peut-être y venir, dans le livre, on a quelques maquettes qui montrent des lieux, ce qu'on appelle des ouvroirs où elles travaillent. Bon. Quant aux maquettes de cellules elles-mêmes, on ne sait pas où elles étaient fabriquées, dans le couvent bien sûr, ni même exactement à quel moment précis. Donc là aussi, il y a une très grande incertitude. On peut postuler que voilà, elles avaient un peu de temps libre, elles pouvaient le faire, mais en même temps, il y a certaines cellules qui nécessitent quand même un minimum d'installation pour les réaliser, hein, parce que ces petits objets, il faut les découper, il faut les coudre, il faut les manipuler, il faut les coller entre eux. Et donc, là aussi, on est dans le domaine de l'hypothèse.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les religieuses passent beaucoup de temps à prier manuellement en fabriquant de très nombreux objets. Donc elles font de la couture, de la broderie, elles fabriquent des objets de dévotion à côté de ces objets vitrés que sont les boîtes de nonnes. Alors boîte de nonnes, faut peut-être y revenir, hein, c'est un syntagme qui a été inventé par une artiste, Léna Vendré, qui en a collectionné et qui a fait don de sa collection au musée d'art sacré du Gard. Et elle est partie de l'allemand Nonnenkitchen pour ce syntagme boîte de nonne qui dit bien l'objet. Alors nonne, après, ça plaît pas toujours à tout le monde parce que on a commencé avec comment fabriquer une religieuse, mais l'épée de nonne. Enfin, il y a un aspect anticlérical à l'appellation de nonne qui n'est pas forcément, qui a un aspect péjoratif.
Oui, Léna Vendré, cette artiste-là, est une artiste contemporaine. Enfin, ce sont les années 1990 avec cette production. Mais là, c'est une démarche artistique autour de ces boîtes. Mais c'est aussi la manière de révéler ces objets du passé qui auraient été peut-être oubliés.
Oui. Elle est, en fait, à partir des années 60, on est dans un moment de sécularisation où les couvents commencent à fermer. Et Léna Vendré, en fait, a rencontré l'objet sur les marchés à l'Île-sur-Sorgue, de vente aux enchères, les antiquaires. Et elle a été fascinée par l'objet qui l'a elle-même beaucoup inspirée pour ses œuvres d'art. Et donc, elle a commencé à les collectionner. Et ce qui l'a fascinée, c'était voilà, cette inventivité et ce monde en boîte. Elle parle de cartes postales cubiques. Quel était le message adressé à l'extérieur, hein ? Qu'est-ce qu'on montre de sa vie ? Et ce qui est intéressant, c'est que les religieuses passent beaucoup de temps dans leur cellule, mais elles passent aussi beaucoup de temps en communauté, hein. C'est d'abord une vie de communauté. Et elles choisissent majoritairement de représenter plutôt la solitude plutôt que la vie en collectivité. Alors on l'a un peu évoqué, à côté de ces cellules qui sont le genre majoritaire, on a aussi donc des scènes collectives, des scènes donc de travail, des scènes dans des réfectoires où on voit les religieuses manger. On a aussi quelques scènes à l'église, dans le chœur. Justement, c'est peut-être l'endroit où les religieuses sont le plus visibles, parce qu'on peut, dans une église, les laïcs, quand ils s'approchent, peuvent tourner la tête pour voir le cœur des religieuses. Et donc ça ne les intéresse pas de montrer quelque chose qui se voit par ailleurs.
Eh oui, c'est vraiment cela, hein. C'est montrer ce qui ne se voit pas, c'est toute la question de l'enfermement, et vraiment elle est au cœur de ce propos, la question de l'enfermement, du temps de travail des nonnes, des religieuses aussi, parce que, vous l'avez bien dit, les religieuses prient beaucoup, mais elles travaillent.
De quoi peut vivre un couvent en 1970 ?
C'est évidemment le gros problème. Nous avons une petite hôtellerie qui était destinée d'abord aux parents et amis, mais qui est pour nous un moyen d'existence. Malheureusement, nous n'avons pas de monde toute l'année. Nous avions aussi un travail rétribué, une maison parisienne, une entreprise parisienne nous donnait des échantillons à coller. Et ça employait un certain nombre de sœurs. Malheureusement, depuis plus de 2 mois, malgré les promesses, nous sommes sans travail. Et c'est vraiment un gros souci. L'idéal serait de trouver du travail dans la région.
Et vous avez d'autres activités
oui,
plus restreintes?
Oui, alors nous avons des activités plus restreintes. Par exemple, une sœur fait des icônes. Nous faisons aussi des ornements d'église.
En 1971, les sœurs de Béthanie, avec cette évocation de petits travaux, Isabelle Landonna, on est vraiment dans cette histoire-là, hein, celle des boîtes. On entend, il y a de la récupération, et puis c'est la fabrication de petites icônes, ça peut être des petits reliquaires aussi.
Absolument, mais il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer le travail qu'elles accomplissent pour vendre des objets. Alors, elle parlait de coller des échantillons. Au 19e, elles font des fleurs artificielles. Alors que l'industrialisation se développe, les couvents de religieuses sont des sortes de conservatoires d'un artisanat qui n'est pas encore mort à ce moment-là, mais qui est en train de s'affaiblir. Donc elles font aussi des broderies, des dentelles. Les dames raffinées viennent prendre des fleurs pour mettre à leur chapeau des fleurs artificielles qui servent aussi dans les églises. Elle fabrique de la dentelle pour les sous-vêtements, par exemple. On en a des cas. Donc, il faut distinguer ce qui est censé rapporter un petit peu de revenus au couvent. C'est jamais beaucoup d'argent, hein, bien entendu. Elle fabrique aussi toutes sortes d'habits pour les curés, enfin pour les célébrations religieuses. Elle fabrique du pain de messe, des hosties. Donc, il y a comme ça toute une série de choses qui rentrent en fait dans leur emploi du temps, qui comporte une part d'heures de travail dans la journée. Et puis ces petites boîtes, où justement, on ne sait pas trop dans quel moment de l'emploi du temps elles rentrent, et dont on pense qu'elles n'ont pas été vraiment commercialisées.
Dans les règles qui régissent tous ces couvents, on sait bien qu'il y a toute une part laissée à la prière, une part laissée aussi à l'activité manuelle. C'est un peu le résumé de cela avec ces boîtes-là, où c'est une activité manuelle, vu qu'elles les ont réalisées, mais elles-mêmes se représentent comment? Alors, on l'a bien dit, hein, il y a quelques cas où on les voit travailler, mais quand elles sont dans leur cellule, elles sont en prière, elles sont en lecture,
Elles sont en prière. Dans les cellules, on les voit soit en prière, en oraison, soit en train de travailler.
Voilà, c'est ça.
En train de lire aussi.
Et en train de lire aussi. Oui.
On peut imaginer que ce moment de réalisation de la boîte, c'est aussi un moment qui est un moment spirituel, une réflexion. Vous nous disiez, Elisabeth Lucet, qu'il y a des petits signes qui sont envoyés avec la présence ici d'un saint, parfois quelques mots. C'est une activité qui est porteuse de messages.
Oui, en fait, tous les objets qui sont entreposés dans la cellule sont signifiants. À la fois le sablier qui dit le temps qui passe, le balai, la nécessité de la propreté, mais c'est aussi la propreté de l'âme, hein, c'est le balai de l'âme qui chasse les péchés. Alors parfois, c'est plus rare, on trouve aussi une petite discipline, un petit fouet qui sert aux mortifications. Notamment dans les exemples espagnols. On peut trouver aussi parfois un silice, donc pareil, hein, l'objet métallique qui sert à mortifier les chairs. Donc c'est un objet qui sursignifie ce qu'est la vie religieuse, à la fois dans sa pauvreté, dans son humilité, et qui n'a sans doute pas intéressé les historiens de l'art jusqu'à présent, parce que ce n'est pas un objet qui vise à dire le beau, c'est un objet qui vise à exalter les valeurs monastiques d'humilité, d'obéissance, de pauvreté. Et c'est un objet qui est fait à partir de 1000 petits riens et qui symbolise cette spiritualité de l'anéantissement qui est celui des religieuses, notamment des carmélites.
Et qui n'est pas censé dire le vrai non plus, parce qu'il y a ça. Une erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de croire que les petites cellules reflètent la réalité des cellules de religieuses. Parce que De fait, on peut parfois les identifier l'ordre, etc., grâce aux images. Mais en même temps, il y a des petites boîtes où il y a des images qui, dont la, les seins qui sont représentés sont un peu compliqués à, non pas à identifier, mais à relier à un ordre précis. Et donc, là, on s'aperçoit bien que dans ce cas, il n'y a pas forcément de lien très précis entre le sein qui est représenté et la, l'ordre, bref. Mais en tout cas, les cellules de religieuses étaient, pour un certain nombre d'entre elles, sûrement pas pourvues de tout ce décor qu'on voit parfois, dans, notamment dans les cellules ibériques, qui sont très denses, quoi.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous visitons ces boîtes de nonnes. Une vie en boîte, c'est cet ouvrage publié aux presses de la Sorbonne avec ses histoires de petites boîtes.
Petite boîte, très étroite, petite boîte, faite en tiki-taki, petite boîte, petite boîte, petite boîte, toute pareille. Y a des rouges, des violettes et des vertes, très coquettes. Elles sont toutes faites en tiki-taki, elles sont toutes, toutes pareilles. Et ces gens-là dans leur boîte vont tous à l'université. On les met tous dans des boîtes, petites boîtes, tout pareil. Y a des médecins, des dentistes, des hommes d'affaires et des avocats. Ils sont tous, tous faits de tiki-taki. Ils sont tous, et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous, tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis s'en vont à l'université. On les met tous dans des boîtes et ils sortent tous pareils. Les garçons font du commerce et deviennent pères de famille. Ils bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, tout pareil. Puis ils règlent toutes leurs affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en tiki-taki qui sont toutes, toutes pareilles.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Graham Allwhite, les petites boîtes, d'après la chanson en anglais de Malvina Reynolds en 1962, et c'est le générique de la série télévisée Desperate Housewives, et c'est aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Riyad Kera avec à la technique François Saint-Jour, et donc nous explorons nos petites boîtes avec ces religieuses. Isabelle Landona, Elisabeth Lussacan, vous découvrez cet objet historique. Il y a beaucoup de surprises en se disant, mais l'objet est tellement complexe. Comment l'aborder? Vous nous expliquiez que c'est la source, cet objet est la source elle-même, il est sa propre source. C'est très dur à étudier. Et puis après, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il porte. Comment appréhender un tel objet historique?
Ben, en réalité, ce qu'on a fait, enfin, d'abord, c'est Elisabeth qui l'a trouvé au départ en cherchant des images de cellules, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est un objet qu'il faut d'abord scruter. Enfin, le pouvoir de fascination est lié au fait qu'on regarde, hein, au sens premier du terme.
Et qu'on voit pas tout d'un coup.
Et qu'on voit pas tout d'un coup. Et que, voilà, on y revient et à chaque fois, on redécouvre dans des coins et des recoins des petits détails. Et ensuite, comment a-t-on procédé? Bien, en fait, on a décidé de tourner autour et d'abord et de entrer dedans ensuite. Et c'est ce qu'on a fait avec la table des matières en fait du livre, montre un peu aussi comment on a travaillé, c'est-à-dire comment on s'est intéressé aux matériaux, aux circulations, aux destinataires, etc., pour essayer de tourner autour en quelque sorte.
Oui, parce que cet ouvrage est richement illustré. Ça aurait été dommage qu'il...
Sans images,
on aurait été un petit peu malheureux, oui. ça c'est sûr. Mais c'est la richesse du document hein, qui est fascinante. Et je le disais, vous êtes l'une et l'autre médiéviste. Et il y a toujours cette idée d'intemporalité du monde monastique. Alors on sait que c'est complètement faux, au sens où c'est un monde qui évolue. Mais il y a une portée très forte avec ces images-là, qui figent en fait, et étonnamment, qui correspond à ce qu'on peut retrouver ailleurs... et encore aujourd'hui dans le cinéma, comment on se représente l'intérieur d'un couvent?
Oui, alors vous avez évoqué le fait qu'on était des médiévistes. Hein, pour tourner autour de cet objet, on ne l'a pas fait toute seule. En fait, là, c'est un livre collectif. Et donc, comme l'objet n'a pas beaucoup... On ne trouve pas beaucoup de mentions dans les textes. Hein, on trouve parfois... Alors, il y a des textes qui racontent les activités des religieuses dont on n'a pas parlé. Ce sont les circulaires, ce sont des notices nécrologiques qui sont rédigées après la mort d'une religieuse et qui racontent sa vie d'une manière exemplaire. Et on a un certain nombre de récits qui nous racontent comment certaines sœurs sont très habiles dans la confection de certains objets. Et ça fait partie des rares cas qu'on a pu documenter. On a notamment le Carmel de Tours, a fait réaliser par l'une des sœurs, qui est une napolitaine qui s'appelle Maria Giulia Rocca, qui est rentrée en religion... alors, est-ce que...
1855.
Voilà, en 1855, et qui a confectionné...
65, pardon.
1865. Elle a confectionné le Carmel en entier, dans une taille avec plusieurs niveaux qui se déplient sous un et donc sa notice nous raconte son savoir-faire, etc. Et alors comment on a fait ensuite? Eh bien, en fait, on a demandé à nos collègues de tourner autour de l'objet. Alors d'abord en le disséquant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un objet sous verre? Pourquoi est-ce qu'on met l'objet sous verre et pourquoi on le contemple à travers une vitre? Qu'est-ce que c'est que se mettre en scène sous la forme d'une poupée? Qu'est-ce que ça veut dire que de confectionner un habit avec les chutes de tissu? Quelle est la différence entre cette boîte qui est une représentation en 3D de la vie par rapport à une carte postale? Parce que les couvents sont des lieux qui investissent massivement la photographie à la fin du 19e siècle pour donner encore à voir leur mode de vie qui est très critiqué. Et donc il s'agit d'expliquer ce qui se passe derrière une clôture qu'on soupçonne toujours d'être un lieu, alors soit un lieu de lascivité, soit un lieu de paresse. Enfin, il y a tout un imaginaire du cloître que ces religieuses combattent par les images. Et puis ensuite, on a voulu comprendre cet objet et comme on n'a pas de source, encore une fois, pas beaucoup, on a essayé de le comparer à d'autres objets. Donc qu'est-ce que ça veut dire au 19e siècle pour une religieuse que de fabriquer cette boîte par rapport aux maisons de poupées qu'elle a fabriquées dans son enfance? Quelle est la différence et les similarités entre ces boîtes vitrées et d'autres boîtes vitrées fabriquées dans les couvents qui sont les reliquaires ou les crèches que le public connaît beaucoup plus? Qu'est-ce que ça veut dire que la poupée, hein, est-ce qu'il y a des poupées au cloître et à quoi servent-elles? Et il y en a, hein, pour apprendre à s'habiller. Il y a un investissement dans la poupée qui est important. Et puis ensuite, on a essayé de comprendre les circulations. Et ça a nécessité, médiévistes que nous sommes, de passer de la source et du document froid qui a plusieurs siècles, à une matière beaucoup plus chaude, qui est de rencontrer des gens, de les interroger, et que ces gens nous livrent leurs souvenirs et leurs archives familiales.
Voilà, le témoignage. Parce qu'il faut le rappeler toujours, c'est vrai que nous avons des étiquettes médiévistes, antiquisants, etc. Mais la démarche est la même. Hein, c'est une discipline scientifique et on fait de l'histoire. Donc, à partir du moment où on applique les méthodes scientifiques, on peut explorer différentes périodes.
Difficulté du fait qu'effectivement, quand on va vers le contemporain, ce qui est un mouvement étrange pour des médiévistes, c'est qu'on peut interroger ses sources.
Et oui, voilà, les rencontres alors, parce que on le disait, ces boîtes peuvent se trouver encore dans les familles. Il y a des témoignages, vous avez réussi à discuter avec des gens qui pouvaient vous apporter des éléments de compréhension de ces boîtes de nonnes.
C'est Elisabeth qui a beaucoup discuté. Hein. Juste avant qu'elle ne parle de ça, juste une précision à propos de Maria Giulia Rocca, donc qu'elle évoquait à propos du Carmel de Tours, parce que là, pour le coup, sa notice nécrologique dit qu'elle fabriquait, qu'elle était artiste jusqu'au bout des doigts, je cite, et encore qu'elle avait réalisé cette maquette à ses moments perdus. Et donc ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur quelle temporalité pour ce genre de travaux. Hein, voilà. Donc ça, c'est un témoignage auquel nous, on est un peu familiarisés parce que c'est un témoignage écrit, mais les témoignages oraux, c'est surtout Elisabeth.
Mais cette notice, elle raconte aussi qu'elle a fabriqué cette maquette du Carmel afin que nos familles qui ne pouvaient entrer dans la clôture aient la consolation de faire la visite du monastère. On retrouve toujours cette idée de passage et de faire voir. Et pour revenir donc au témoignage, alors c'est le moment où je raconte comment parler de sa recherche en cours de route apporte beaucoup de choses. J'ai été présentée notre travail lors d'un séminaire à l'université de Clermont-Ferrand. Et à la fin du séminaire, une étudiante est venue me voir en me disant « Ah mais vous savez que c'était l'objet du mois aux archives départementales du Cantal. Il y avait une boîte qui était présentée et avec la photo de la religieuse qui l'a fabriquée. » Et donc, j'en suis un peu tombée de ma chaise. Je lui dis, comment ça, la religieuse qui l'a fabriquée, on ne sait pas qui fabrique ces boîtes. Et donc, j'ai écrit à la directrice des archives départementales du Cantal, qui me dit, oui, en fait, c'est une donation qui remonte à déjà une dizaine d'années, d'une dame qui a donné la boîte, une photographie de la religieuse, ses poèmes et sa natte de cheveux tressés encadrée dans un cadre bombé. Et sur le moment, elle me dit je n'ai pas les coordonnées de cette dame. Puis j'ai réécrit ensuite, et puis elle m'a dit, vous avez eu raison d'insister, je viens de lui téléphoner. Elle a 88 ans, elle attend votre appel. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Clotilde Astruc.
Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, un témoignage.
Noémie était à l'abri du mal, elle. Bien sûr, sa vie de carmélite était dure. Sans feu l'hiver, dans le dénuement de sa cellule, assise sur ses jambes, dormant peu, mangeant encore moins, avec de la viande seulement une fois par an, pour Pâques. J'imaginais tout cela en regardant la maquette de cellule qu'elle avait confectionnée, où une poupée, vêtue en carmélite, assise à même le sol sur ses talons, méditait au-dessus d'un travail de dentelle. Son clair visage de porcelaine, au sourire impassible, me fixant à travers la façade vitrée, comme un sarcophage miniature. Je sous-entendais qu'elle ne faisait pas de péché. En ce temps-là, je tenais à mes nattes, et je regardais attristée celle de Noémie dans son cadre ovale, en verre bombé, comme un miroir de sorcière, portant la date de sa prise d'habit, le 2 juillet 1909. Elle avait bâti les chiffres et pétales d'une petite pensée, avec ses cheveux noirs, découpés, collés et liés d'un fil doré.
Jeanne Coppet qui nous lisait le témoignage de Clotilde Astruc. Nous sommes toujours dans les archives départementales du Cantal ici. Très intéressant ce témoignage. En fait, c'est une jeune fille qui voit la boîte de sa tante,
voilà.
Noémie.
En fait, sa tante est rentrée donc au monastère dans les années 1910. Et donc Clotilde Astruc et sa nièce, et elle raconte comment elle s'imagine devenir carmélite en contemplant la boîte de sa tante qui est dans la maison familiale, qui se trouve dans le placard de la grand-mère. Ça fait partie des rares témoignages qui nous renseignent sur les usages de ces boîtes dans les familles. Et donc Clotilde Astruc ensuite a donné cette boîte aux archives départementales du Cantal, et quand je suis rentrée en contact avec elle, elle m'a raconté l'histoire de Noémie, que je n'avais pas parce qu'il n'y avait que les objets. Et surtout, elle m'a envoyé, elle m'a communiqué toutes les lettres écrites par cette carmélite, où elle raconte comment elle fabrique effectivement constamment des petits objets qu'elle donne à sa famille. Donc il y a des échanges d'objets, à défaut de se voir autrement qu'au parloir. Elle leur fabrique des souvenirs, elle leur raconte sa vie à travers ces objets.
C'est ce contact avec la famille qui est extrêmement réduit. Et puis, il y a l'idée vraiment de voir, parce que même s'il est possible d'échanger avec sa famille, les correspondances c'est une chose, mais discuter aussi, mais il n'y a pas la vue. Et ça, c'est important, parce que la boîte apporte cela.
Alors, il y a la vue, on peut visiter sa tante au parloir, d'ailleurs. Oui. Elle raconte...
Pour la cellule, on ne la verra jamais.
Pour la cellule, non.
On peut voir la religieuse, sachant que les règles s'assouplissent dans les années 50 et les religieuses peuvent soulever leur voile noire. Bon, alors après, selon les communautés, voilà, le degré d'ouverture est différent. Et donc Clotilde, quand elle est née, sa mère l'a conduite au Carmel, lui a fait passer le tour, hein, qui est ce dispositif qui permet de faire passer des objets sans rompre la clôture, hein, qui s'ouvre d'un côté, puis on tourne ce rouleau pour faire passer l'objet, ou là, le bébé.
En l'occurrence, le bébé.
Dans la clôture, et comment sa tante l'a prise dans les bras.
Et dans le livre, on a mis plusieurs histoires familiales. Alors, ce témoignage-là, il est tout à fait extraordinaire. Hein. Bon. Mais dans le livre, il y a trois autres histoires comme ça qui s'apparentent à des histoires familiales de boîtes qui font l'objet et d'un récit. Notamment, Elisabeth a écrit quelque chose sur la boîte de Victor Hugo qui est absolument merveilleuse. De ce
oui,
point-là.
Alors, Victor Hugo, c'est ça. Cousina qui est religieuse.
Carmélite à Tulle.
Ouais.
Voilà. Et il y a la correspondance de Victor Hugo. Alors c'est Victor Hugo, donc ça donne tout de suite une idée. La boîte est conservée à Guernesey. Enfin, cela dit, tu ferais mieux d'en parler. Elle est conservée à Guernesey et on sait qu'elle la lui offre pour son 75e anniversaire. Voilà, et donc il y a toute une
correspondance. Comme c'est Victor Hugo, voilà. On a des témoignages d'un ami de la famille, Gustave Rivet, qui raconte comment toute la famille Hugo, dans le salon de l'appartement parisien Place des Vosges, se réunit autour de la cellule pour communier, il n'emploie pas ce terme, autour de la mémoire de cette cousine carmélite à Tulle, qui leur envoie aussi du pain et une cruche d'eau.
Laquelle avait été mariée avant de devenir carmélite à un Chirac.
D'accord, voilà. Non, mais vous faites bien de le dire, Isabelle Lelandais. Ah, important, la généalogie.
Je le dis, à Tulle en même temps.
Et donc, ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est qu'elle est manifestement, elle fait l'objet donc d'un recueillement familial autour de cette figure de l'absente. Et puis ensuite, elle a été manipulée, cette boîte. Alors, elle a comme caractéristique, normalement, ce sont des boîtes vitrées hermétiques. On ne peut pas bouger les objets. Mais parfois, on peut ouvrir la boîte. C'est le cas de la boîte de Victor Hugo. Et donc, ces boîtes, a posteriori, elles ont fait l'objet de manipulations. Il semblerait que certaines aient parfois servi de maison de poupée. Alors, celle de Victor Hugo, la carmélite a perdu sa robe. Donc, et elle est couchée, ce qui, pour le coup, n'est pas du tout une posture conventionnelle pour les religieuses.
La seule qu'on est dans cette position.
Voilà, mais on a d'autres boîtes, par exemple, au musée Unterlinden, où la boîte est devenue une maison de poupée. C'est-à-dire, à la place des gravures, on a des portraits de femmes à l'aquarelle, on a de la dentelle, la religieuse tricote, et puis la boîte a été manipulée. Enfin, parfois les boîtes sont ouvertes et elles servent à d'autres choses que leur usage initial.
Et puis avec ces boîtes de nonnes, c'est toute la question de l'enfermement.
L'enfermement, alors je dirais oui, l'enfermement sur soi, croire que c'est en se concentrant, c'est que tout va être arrivé. C'est croire que c'est par la force des poignets qu'on va y arriver, alors que non. Et qu'au contraire, il faut se laisser faire. Et puis, se laisser prendre par le monde, par l'urgence, parce que le monde est à notre porte, et est en nous aussi. Et on est comme tout le monde, on réagit au quart de tour. Et se dire non, attention, où est l'essentiel? Toujours revenir à ça.
En 1995, sur France Culture, Les Nuits Magnétiques, un reportage au Carmel de Migné aux Anses, avec ici cette évocation de l'enfermement. L'enfermement, c'est ce programme de recherche enfermement, histoire comparée des enfermements monastiques et carcéraux du 5e au 20e siècle, auquel vous collaborez l'une et l'autre. C'est la question de l'enfermement, et de manière plus large. Et c'est vraiment fascinant de voir que ces boîtes de nonnes sont une manière de montrer à l'extérieur l'enfermement. C'est à la fois une manière de sortir, mais d'afficher. C'est une cellule, c'est extrêmement austère en même temps. C'est complexe, hein, cette histoire-là, parce que c'est très généreux de montrer à la famille la manière dont on vit. En même temps, c'est juste rappeler qu'un monastère, c'est un lieu d'enfermement.
Ah oui, ça, c'est un lieu d'enfermement. Oui. En même temps, il y a toujours eu une forme de perméabilité des clôtures monastiques comme des clôtures carcérales, au demeurant. Alors, bien sûr, il y a des ordres très cloîtrés. Hein, on parlait des carmélites, elles le sont beaucoup, les chartreuses, bon voilà, enfin, il y en a de toutes sortes comme ça. Mais il y a toujours eu de la communication avec l'extérieur. Mais c'est vrai que l'histoire de l'enfermement féminin, entre le 12e, 13e siècle, la réforme et jusqu'au 18e siècle, c'est quand même une histoire où on rigidifie les pratiques, hein, même s'il y a un peu de relâchement à partir du 18e siècle, justement. Mais il y a toujours eu des formes de communication avec l'extérieur.
Oui, ces formes de communication avec l'extérieur, elles existent, mais cette histoire est liée à celle du monde carcéral. Hein, et on sait bien, à la suite de Michel Foucault, il y a toute cette réflexion sur l'enfermement, parce que la chronologie ici est intéressante. Hein, 18e siècle, 19e siècle, c'est ça la grande période de fabrication
de bois. Oui, alors les plus anciennes conservées datent du 18e siècle. Sachant quand même qu'on, sur les questions de datation, on n'est pas très à l'aise non plus, hein, parce que comme on le disait tout à l'heure, on a des éléments qui permettent parfois de dater, mais parfois pas. Le grand siècle, c'est la deuxième moitié c'est le 19e siècle et surtout la deuxième moitié du 19e siècle. Mais enfin, on en a jusqu'à une époque relativement récente, hein, l'immédiate après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà. Mais la grande période de production, en tout cas de ce qui est conservé, c'est quand même le 19e siècle.
Oui, qui correspond en fait à l'enfermement dans l'ensemble de la société. Enfin, on a ces mouvements qui se croisent ici avec une religiosité qui est très particulière au 19e siècle. Et le couvent au 19e siècle, ça représente
quelque chose de très fort. C'est surtout qu'après la Révolution française, la suppression des congrégations religieuses, à partir des années 1830-1840, en réalité, l'entrée en religion des femmes connaît un succès incroyable. Hein. On a des chiffres. Hein. Il y a 4000 religieuses contemplatives en 1820. Il y en a 26 000 en 1881. Et si on compte la totalité des religieuses, on en a en France. On en a 1808, c'est les chiffres de Gérard Cheville, je crois, ceux-là. 1808, 12 300, 1878, 135 000. Donc ça donne quand même un petit peu une idée du succès, si je puis dire, de l'enfermement religieux des femmes au 19e siècle.
Et qui est pas forcément un enfermement subi, qui peut être une aspiration.
Oui,
voilà.
Sûr, oui.
Il y a ce que montrent également les récits, c'est comment les petites filles sont socialisées à aspirer à ce type de vie. Donc Isabelle en faisait mention, on offre aux petites filles des costumes de religieuses, aux petits garçons des jeux de messe, on joue à la messe avec un petit autel miniature, un calice, etc. Dans les fratries, hein, c'est ce que notamment a montré Anne Dolores Marcellis dans un ouvrage sur les carmélites et les religieuses en cloîtrées en Belgique, elle a des récits comme de sœurs qui s'entraînent à la pénitence dès le plus jeune âge et qui aspirent à rentrer au monastère parce que c'est une forme de vie consacrée, une forme de vie valorisée. On parlait de la boîte de Noémie Lacoste, donc cette tante carmélite de Clotilde Astruc. Elle est présentée par toute la famille comme le paratonnerre de la famille. C'est celle qui se sacrifie pour sauver tous les autres. Donc il y a cette idée, hein, la religiosité féminine au 19e siècle passe par cet investissement dans le monastère. Quand on ne peut pas devenir prêtre, on ne peut pas. C'est la manière dont on se consacre à Dieu, c'est d'être une religieuse avec des formes variées. Il y a des femmes qui décident d'être dans le monde, les augustines, les hospitalières, les ursulines, les congrégations enseignantes, hein, qui sont très importantes en fait, et qui façonnent aussi l'éducation des enfants du 19e siècle. Et puis il y a ces femmes qui font le choix d'un enfermement qu'elles vivent comme un retrait du monde pour se concentrer sur l'essentiel. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui cherchent à faire des retraites monastiques pour se séparer de leur téléphone. Et sans doute qu'il y a, voilà, il y a le monde, c'est un orage permanent. Hein. Et la cellule, c'est le retrait dans un lieu qui est préservé. C'est ce que dit aussi la religieuse qu'on a entendue.
Oui, c'est extrêmement préservé. Hein. C'est petites cellules sont rassurantes. Et puis, on l'a bien dit, il n'y a pas que cela. Il y a la vie en collectivité, le travail qui est parfois représenté. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vision idéale de ces couvents pour, alors, je sais pas si le mot prosélytisme est bien adapté ici, mais enfin, pour donner envie aux petites filles, ben, elles aussi, en voyant ces boîtes à la maison, de se dire, bah, tiens, moi, je vais faire comme Tata Noémie, j'irai peut-être au couvent.
Il y a une dimension de prosélytisme, sans aucun doute, parfois, hein. Peut-être pas de façon systématique. Enfin, je veux dire, quand la carmélite Marie, cousine de Victor Hugo, lui envoie pour son 75e anniversaire sa boîte, c'est pas du prosélytisme, c'est plutôt pour une pensée, un cadeau, en quelque sorte, qui dit aussi quelque chose de sa vie à elle. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas toujours une dimension de prosélytisme, mais c'est vrai aussi que cette dimension-là, on peut pas l'exclure et on la connaît par certains témoignages. En même temps, ce que disait Elisabeth sur les entrées au couvent, hein, par exemple, Thérèse de Lisieux et ses sœurs, elles sont quatre, je crois, je me souviens plus très bien.
Voilà, des fratries entières, enfin, prêtres,
qui entrent au couvent, toute une série de sœurs qui entrent au couvent. Bon, cela dit, ça, c'est pas propre au 19e siècle, au début du 20e siècle. Hein. Par exemple, dans les mouvements de l'observance au 15e siècle, le début de l'observance, on a des cas comme ça, par exemple à Pise, où les femmes, des veuves, entrent avec leurs enfants massivement, leurs sœurs, etc. Enfin, leurs filles, bien sûr. Donc, c'est pas propre au 19e siècle, bien sûr.
Avec des temps différents pour ces boîtes. Hein. Il y a le temps où la religieuse est vivante, et on a bien compris ce message envoyé à la famille. Il y a le temps d'aujourd'hui, hein, c'est le temps du musée. Et puis, il y a cet autre temps, mais quand la religieuse est décédée, c'est vrai que ça devient, alors là, une relique mortuaire. On a quelque chose, et c'est un peu le cas que vous évoquiez dans la famille Hugo, c'est que la cousine religieuse n'est plus là, mais elle est toujours là parce qu'il y a cette relique.
Alors, il y a cette relique, et puis on arrive maintenant à un temps où ces objets ont été fabriqués jusque... Alors, on a des attestations encore massivement les années 1930, après ça s'étiole. On a encore quelques attestations dans les années 1950. Hein, ouais. Ça s'arrête sans doute avec le Concile de Vatican II. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une coupure dans les mémoires. C'est-à-dire que certaines religieuses se rappellent, bon, elles sont nonagénaires, autogénaires, et elles vont dire « je me rappelle que j'en ai peut-être offerte une à ma famille ». Donc c'est pas non plus, elles semblent pas y avoir mis un investissement affectif, puisqu'elles ne sont plus tellement certaines d'en avoir eu. Puis il y a ces religieuses aussi qui ont complètement oublié la chose. Et vraiment, les Clarisses de Perpignan, le couvent a fermé l'année dernière, et elles sont tombées sur ce petit kit, alors qu'il date, semble-t-il, je dirais des années 1930-1940, où il y a les petites figurines des Clarisses, comment fabriquer un petit médaillon. Et quand on les interviewe au départ, les religieuses disent « Ah non, mais moi je ne connais pas cet objet, on fait pas ces enfantillages, une cellule ça ressemble pas à ça, c'est pas aussi orné ». Donc il y a aussi des religieuses qui sont celles qui sont fascinées, puis celles qui trouvent que ça n'a rien à voir avec... leur vie, la façon dont elles le vivent.
Oui, il y en a même qui n'en ont jamais entendu parler. Hein.
Voilà.
J'ai interviewé les Clarisses de Cormontreuil dans la banlieue de Reims, ça ne leur disait rien. Hein.
C'est alors qu'il y en a une.
Alors qu'il y en a une, oui.
Oui, alors qu'il y en a une. Et puis, c'est cette variété, parce qu'on évoque quelque chose un peu standardisé, mais c'est l'idée même de la cellule monastique. Mais il y a tant et tant de modèles possibles par la taille, par le nombre d'individus représentés, et puis par la richesse.
Au nombre d'individus représentés dans les cellules.
Dans les scènes collectives.
Pour répondre à la question de savoir si c'est des scènes idéales, ce qui est intéressant dans les réfectoires, c'est qu'il n'y a pas de place inoccupée. C'est-à-dire qu'il y a une sœur qui est en train de servir les autres, une autre qui lit, mais la table en U est entièrement remplie. Alors qu'elles sont 12 et que normalement, s'il y en a deux, une est en train de lire La vie de Thérèse de Lisieux, une lecture édifiante, et l'autre en train de servir,
ça veut dire qu'il y a deux places de libre.
Il faudrait deux places de libre. Voilà, donc on est vraiment dans la représentation de la communauté idéale, dans son unité, son homogénéité.
Avec tant et tant à dire autour de ces boîtes de nonnes, Une vie en boîte, c'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé l'une et l'autre, Isabelle Landonna, Elisabeth Lucet. C'est une publication des éditions de la Sorbonne. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, on a mis sur le site internet franceculture.fr quelques images, juste pour donner envie d'aller voir le livre, des images tirées de l'association Trésor de Ferveur, hein, cette collection absolument formidable. Préciser aussi que les petites boîtes là de Graham Allwhite, c'est la série Weeds, le générique. Et puis surtout vous dire que ça fonctionne, j'ai déjà les messages.
Bon bah c'est super.
J'ai déjà des gens qui me disent j'ai des boîtes de nonnes à la maison, qu'elles viennent, je vais leur représenter. Et juste pour terminer, parce que ça a été à peine évoqué, mais on peut le dire, vous avez évoqué des phénomènes similaires en Espagne justement. Est-ce qu'une histoire comparée de ces boîtes de nonnes peut être envisagée? L'Allemagne aussi a été évoquée.
Oui, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas. Pour l'instant, notre problème, c'est qu'on n'en a pas trouvé en Italie.
Voilà, donc c'est le moment où on fait un appel.
Voilà, c'est là le moment où on fait un appel. On a interviewé des collègues en Italie qui n'en ont pas vu. Alors, ce qui est très paradoxal et très bizarre, parce que quand on sait, par exemple, en Italie du Sud, les santons, poupies, etc. Enfin, toutes ces... Donc, c'est très bizarre. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais on en a trouvé partout ailleurs en Europe, hein, en Suisse, aux Pays-Bas, en France, en Belgique.
C'est formidable. C'est une histoire qui parle toutes les langues, ces religieuses parlent toutes les langues. Merci vivement Isabelle Landonna, merci vivement Elisabeth Lucet, Une vie en boîte, puisqu'elle parle toutes les langues. Est-ce que vous saviez que Lennon parlait français? John Lennon, oui.
Maintenant, speak French, tous les mots.
Défense de fumée.
Défense de fumée.
Offre les pompiers cuits. Richelieu, rue Richelieu.
Rue Richelieu et grenouille.
Oh, yes.
Comment on dit grenouille? Frog.
Frog?
Grenouille.
Grenouille, frog leg.
Oui. Non, mais grenouille.
Speak. Grenouille.
He wants you to say grenouille.
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 Et oui, en 1971, le pop club José Arthur avec John Lennon, voilà, qui parlait français, qui évoquait les grenouilles. Je sais pas si c'était des grenouilles de Benity. En tout cas, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayou Nguizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.